Passeport, passe sanitaire, vaccin plus test PCR, gel avion, vue aérienne, Méditerranée, maison, immeuble blanc, palmier, passeport, passe test douane, hôtel, palais des congrès, bulle sanitaire, de la fenêtre de notre studio improvisé, une phrase, Welcome in Tunisia, nous y sommes.
Pascal Paradou.
Nous y sommes à Tunis pour les états généraux du livre en français dans le monde. Deux jours de rencontres, de tables rondes, d'échanges, afin de voir comment le livre en français circule ou pas dans l'espace francophone et ailleurs, et examiner 50 propositions pour dynamiser ce secteur où il est question d'économie, mais aussi et surtout de culture, de savoir et de valeur. Présents à Tunis ou à distance en visio, quelques 500 professionnels vont donc réfléchir au constat et faire des propositions. Et nous allons prendre notre part, plus modestement, avec aujourd'hui trois invités de zones géographiques très éloignées. Bonjour Ibrahima Aya.
Bonjour Pascal.
Écrivain, éditeur, vous êtes le cofondateur des éditions Tombouctou et aussi l'organisateur de la rentrée littéraire à Bamako depuis un peu plus de 10 ans. Vous arrivez à mobiliser combien de personnes? Ce sont des milliers de lecteurs.
Oui, jusqu'à 45 000.
45 000 oui, pour un festival littéraire.
Oui, parce qu'en fait, c'est un festival qui ne se déroule pas qu'à Bamako et qui se déroule aussi dans d'autres parties du pays. Et même à Bamako, ça se déroule dans beaucoup d'endroits. Et notamment, là où on a un grand public, c'est les universités et les écoles. Voilà pourquoi ça fait tant de monde.
Donc le lectorat existe.
Oui, mais je pense que pour la rentrée littéraire, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes lisent. Et voilà, donc on investit les lieux où ils sont. On va vers ces jeunes. Donc on ne les attend pas, on va aller chercher, leur proposer des choses qui peuvent les intéresser sous forme d'imaginaire, mais aussi sous forme de débat d'idées.
Voilà. Avec vous, on continuera cette conversation, bien sûr, avec vous, Michel Chouaïri, bonjour.
Bonjour.
Ancien libraire à Beyrouth, aujourd'hui à Dubaï, et vice-président de l'Association internationale des librairies francophones. Qui adhère à cette association?
C'est principalement des libraires francophones d'un peu partout dans le monde, que ce soit dans des pays francophones ou dans des pays non francophones. D'ailleurs, ceux qui sont dans des pays non francophones ont encore plus besoin de nous que des pays francophones.
Et l'objectif de cette association?
L'objectif, c'est de faire donc remonter déjà les messages de nos libraires à travers le monde, d'essayer de créer une sorte de diversité culturelle et de diversité de la culture francophone, parce qu'il n'y a pas la culture française, comme certains veulent bien le dire, il y a des cultures francophones, et c'est à travers les libraires à travers le monde qu'on essaie de les faire découvrir dans ces pays-là, en collaborant énormément avec des éditeurs francophones partout dans le monde pour faire justement des chaînes, des rencontres, des présentations d'auteurs, etc.
Et vous êtes sur les 5 continents, il y a à peu près 1 millier d'adhérents, c'est ça?
Non, on n'a pas 1 millier, on est à peu près dans les 150 adhérents.
150,
oui, 150.
1 millier après l'émission.
Ça fait beaucoup, oui, probablement.
Question subsidiaire, est-ce qu'on lit en français à Dubaï, puisque vous êtes installé là-bas?
Oui, n'oubliez pas que Dubaï, il y a à peu près 250 nationalités. Et il y a énormément de francophones qui viennent du Québec, de Belgique, de France, du Maghreb, du Liban, d'Égypte, donc dans des pays francophones. Et même pour ceux qui ne le sont pas, ils mettent leurs enfants dans les lycées français. Et il faut savoir qu'il y a 2 ans, l'État des Émirats a décidé que la 3e langue officielle des Émirats allait être le français après l'arabe et l'anglais. Donc du coup, maintenant, il y a des locaux, mais aussi même des écoles indiennes, parce que les Indiens sont assez majoritaires dans ce pays-là, qui commencent à apprendre la langue française comme 3e langue.
Cette question, je ne peux pas la poser à Simon Jocas, car au Québec, on vit, on lit, on parle en français. Bonjour.
Bonjour.
Vous
Pascal.
Avez créé les éditions des 400 coups. C'est en hommage au film de Truffaut?
Oui, c'est en hommage à Truffaut, mais je dois corriger le tir. Je n'ai pas créé la maison, je n'ai pas fondé. Je l'ai rachetée en 2013. Elle est née en 1995 d'une idée de Serge Théroux, qui voulait une maison d'édition audacieuse qui permettait à des auteurs qui n'avaient pas trouvé leur place d'en avoir une. À ce moment-là, elle publiait de tout. Aujourd'hui, elle publie que de l'album illustré pour la jeunesse, mais aussi pour les plus vieux qui conçoivent qu'on a le droit de lire un album jeunesse, même quand on est vieux.
Donc, vous dirigez ces éditions. Vous avez aussi dirigé jusqu'au mois dernier, je crois, l'Association nationale des éditeurs du livre au Québec. Chez vous, le marché du livre en français représente quoi ? On lit quoi ?
Alors, on lit aussi diversifié probablement qu'au Mali ou à Dubaï ou à Paris. Le Québécois moyen va lire de tout. Si on regarde les statistiques de la BTLF, qui est notre électre national, on voit très bien qu'il y a une grande diversité, autant au niveau du lectorat qu'au niveau éditorial. Donc, on publie beaucoup, on lit beaucoup.
Mais est-ce qu'on lit québécois ? Est-ce qu'on lit aussi de l'édition des livres français, africains, des éditeurs libanais ? Je vous pose cette question parce que dans les constats faits à l'occasion de ces états généraux du livre, on en parlait hier dans l'émission, il faut parler de ce déséquilibre. Les livres français représentent 85% du marché et tout comme l'édition africaine, finalement l'édition québécoise représente la portion congrue.
Pascal, vous avez tout à fait raison, mais j'avoue que on est souvent fiers d'être Québécois et plus particulièrement dans le contexte de cette réalité. Effectivement, le livre français est omniprésent dans nos librairies, sur les tablettes, mais le lectorat québécois est quand même porté à aller regarder, à découvrir la littérature québécoise. Et les libraires font un travail incroyable pour faire connaître la littérature québécoise, ce qui fait qu'en bout de ligne, il y a peut-être 75% du livre qui est d'origine française.
85, vous baissez les pourcentages.
Mais au Québec, c'est peut-être un peu moins, parce qu'on a quand même une grosse présence. Sur 70 000 titres publiés, il y en a à peu près 7 000 qui viennent du Québec. Donc, on fait bien notre travail, mais ce n'est pas cette même proportion-là au niveau des ventes. Les ventes sont nettement plus élevées du côté du Québec, toute proportion gardée.
Ibrahima Aya, est-ce que réduire ce fossé est une priorité pour vous qui vivez au Mali ? Et on imagine bien que l'édition malienne n'est peut-être pas aussi vive que celle du Québec.
Non, je pense que c'est une question assez intéressante, parce qu'on est un peu dans un triangle, en fait. Et les chiffres que vous donnez reflètent ce triangle, qu'il faille chaque fois aller chercher les livres sénégalais ou maliens à Paris avant de le trouver à Bamako ou à Dakar. Donc ce n'est pas seulement un cheminement géographique et commercial, c'est aussi un cheminement esthétique. Donc il faut inverser cela. Et je pense que c'est extrêmement important. Mais bon, oui, aujourd'hui, la France représente l'essentiel du marché des livres. Mais l'Afrique, dans 30 ans, c'est 2,5 milliards d'habitants. C'est un autre enjeu, c'est un autre défi, c'est un autre marché. Donc, je pense qu'en termes de perspective, oui, il y a beaucoup de choses à faire.
Il faut se donner 30 ans, en fait.
Et c'est pas beaucoup, 30 ans.
C'est pas beaucoup, vous avez raison. Alors, on va continuer à explorer quelques pistes pour créer justement une nouvelle dynamique du livre dans le monde. On pourra bien sûr jamais tout passer au crible, alors on prend le temps d'une chanson. Mauvaise graine, c'est le titre.
Je vois au fond. Couler des larmes, des électrochocs, mauvais.
Siska sur RFI, artiste marseillaise qui sort ce titre « Mauvaise graine ». Nous sommes aujourd'hui à Tunis pour les états généraux du livre en français dans le monde, rendez-vous initié par l'Institut français qui pendant 2 ans a travaillé en collaboration avec des professionnels d'une 20aine de pays pour faire in fine des recommandations aux politiques et notamment dans le cadre de l'espace francophone puisque le sommet de la francophonie se déroulera en novembre prochain ici en Tunisie. Ibrahima Aïa, par où commencer si l'on veut mener une politique en faveur du livre et spécifiquement du livre en français. Dans votre pays, au Mali, c'est une question de création, d'édition, de diffusion ou d'éducation?
C'est tout ça en même temps, en fait. D'abord parce que c'est une question d'environnement. Et malheureusement, on n'a pas de politique du livre. Donc, pour structurer un environnement, il faut ça. Et puis après, maintenant, tout ce qui va avec, l'accès, mais aussi la production, la diffusion, la circulation. Donc tout ça...
Mais il y a une prise de conscience des politiques?
Je pense que de plus en plus, avec tout ce que nous faisons, notamment tous les plaidoyers que nous faisons à travers la rentrée littéraire du Mali, il y a un intérêt. Bon, je pense que peut-être que partout c'est la même chose. Pour les politiques, tant qu'une question n'est pas d'un enjeu politique, ça ne l'intéresse pas trop.
Oui, il y a toujours d'autres urgences,
voilà,
pour les politiques.
Alors on essaye d'en faire un enjeu politique, c'est ça la question. Et donc on essaye de mobiliser les acteurs pour que les politiques prennent conscience à la fois de l'enjeu pour le pays lui-même, que des acteurs, des professionnels, des livres. Alors donc je pense que ça commence à prendre corps. Des annonces ont été faites, mais pour l'instant, on n'a pas énormément avancé, notamment sur le fait qu'il faut rapidement mettre en place une politique du livre, il faut mettre en place des instruments d'accompagnement, donc des instruments sur la fois institutionnels et financiers pour accompagner les professionnels du livre, mais aussi pour former, parce que tout ça, ça participe à l'écosystème. Et voilà, malheureusement aussi, c'est qu'on est un pays en crise, avec une énorme instabilité politique, et tout ça, ça fait que les choix ou les annonces tardent à se mettre en place, tardent à être concrétisés. Voilà, c'est aussi ça l'inconvénient d'être instable.
Simon de Jocasse, comment on crée une politique du livre? Comment vous avez créé au Québec, enfin pas vous, mais comment les Québécois ont créé une politique du livre? Et pour permettre justement l'accès au livre, un de vos combats, notamment auprès des plus jeunes.
Oui, l'idée est venue, je crois, après un constat de la présence ou de l'omniprésence de l'édition française sur l'espace québécois dans les années 70. À ce moment-là, il faut savoir que la littérature québécoise était relativement mince. Il y avait peu d'éditeurs. Il y en avait quand même. Il y en avait quelques-uns. J'ai même travaillé pour la plus vieille maison d'édition francophone en Amérique du Nord, Beauchemin, 1842. Mais tout ça pour dire que Denis Vaugeois, qui était le ministre de la Culture à ce moment-là, qui était éditeur lui-même et historien, a trouvé une façon tout à fait cohérente d'assurer la pérennité du livre québécois. C'est en structurant l'achat des livres par l'entremise de librairies agréées pour tout ce qui s'appelait institutions publiques, donc les écoles, la bibliothèque de l'école, les bibliothèques publiques, la Grande Bibliothèque du Québec devaient se procurer les livres à travers des librairies agréées. Et donc, exit les grands groupes français qui avaient pignon sur rue en tant que librairie au Québec, ils ne pouvaient plus puisque les librairies devaient être agréées et 100% québécoises. Donc, ça a complètement changé la donne et tout d'un coup, il y a eu un espace pour les librairies. L'éditeur a pu naître. C'est à partir des années 80 que tout d'un coup, il y a une montagne d'éditeurs qui se crée dans tous les genres. Et donc, je pense que c'est vraiment là qu'est née la notion de se dire... Assurons une loi qui dit aux bibliothèques, vous devez acheter au plein prix des librairies agréées.
Michel Chouaïri, c'est un éloge de la librairie qui est fait là, à l'instant. C'est-à-dire que vous êtes le bras armé d'une politique en faveur du livre.
Oui, et j'ai eu la chance de travailler au Québec aussi, dans une librairie justement québécoise. Et justement, c'était marrant de voir que déjà, pour être agréé, il faut avoir 25% des livres que vous avez, des livres d'éditeurs québécois. Donc, si vous n'avez pas 25%, vous n'êtes pas agréé, donc vous ne pouvez pas vendre aux institutions, aux bibliothèques, des trucs comme ça. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup favorisé les éditeurs québécois à ce niveau-là. Et en même temps, c'est une façon indirecte d'aider les libraires sans leur donner directement l'argent, mais en disant « vous n'avez pas le droit de faire de remise aux bibliothèques ». ce qui n'est pas le cas dans les autres pays où on est obligé de faire des remises. Donc c'est une façon de dire on va vous aider, mais on ne peut pas vous refiler l'argent directement. On le détourne d'une autre façon, plus intelligente en tout cas.
Mais est-ce que c'est une problématique qui se pose en zone arabophone ? Parce que le libraire au Québec n'est pas exactement le même qu'à Dubaï ou à Beyrouth, où ce sont de toute façon des librairies plurilingues.
Alors, ça dépend des pays. Par exemple, au Liban, oui, les libraires sont minimum bilingues, sinon toujours trilingues, donc français, anglais, arabe. En Syrie, ils sont principalement arabophones. Il y a pas mal de libraires francophones. Il y avait, avant la situation qu'il y a eu en Syrie, quelques libraires francophones qui vantaient que du français et un peu de livres arabes, mais très peu d'anglais. À Dubaï, on ne peut faire que le français en tant que libraire, parce que ça ne sert à rien, il n'y a que des anglophones autour de nous, donc ça ne sert à rien d'avoir une section anglaise, alors que nous, notre identité est une librairie française. Donc ça dépend de chaque pays. Chaque pays arabophone va s'adapter à son environnement. En Égypte, les libraires peuvent être autant bilingues et trilingues qu'ils peuvent être uniquement francophones. On a certains libraires qui sont uniquement francophones et d'autres qui font au moins deux langues, sinon trois. Donc tout dépend aussi de leur superficie, de l'espace qu'ils peuvent avoir, parce qu'il faut avoir un minimum de choix.
Alors si on parle d'accès, de diffusion ou de distribution, le point noir, me semble-t-il, c'est quand même le prix du livre, car les livres édités en France sont en position hégémonique, on l'a dit, et à l'export, cela devient un produit inaccessible. Le constat a été fait par Sylvie Marsay, la commissaire générale des États généraux, qui faisait les comptes hier dans l'émission.
Le livre est trop cher, juste pour donner quelques chiffres. En France, un livre, c'est à peu près 13 euros en moyenne. Bon, pour un pouvoir d'achat, le livre représente moins de 0,30%, vous voyez, du pouvoir d'achat mensuel en France. Et on a pu regarder dans le cadre de la préparation de ces états généraux ce qu'il en était, notamment en Afrique subsaharienne. Et là, on se rend compte que le livre est entre 12 fois et 27 fois plus cher, proportionnellement, en Afrique subsaharienne. Et pour frapper les esprits, on s'est dit, mais au fond, si on avait ce même ratio par rapport à notre pouvoir d'achat, à combien serait le livre ? Et on arrive à des chiffres sidérants. Le livre en France vaudrait 150 euros pour un livre fabriqué en France, par rapport à notre pouvoir d'achat mensuel, et pour un livre importé, 325 euros. Vous imaginez bien que si le livre valait entre 150 et 325 euros, très peu de gens liraient.
Chiffre vertigineux, Ibrahima. Personne ne peut se payer des livres au Mali. On comprend très bien pourquoi il y a un problème d'édition et de distribution.
Oui, bien sûr, les prix sont totalement disproportionnés par rapport aux revenus des gens. Bon, ça n'empêche que oui, malgré tout, il y en a qui payent quand même des livres parce que bon, ils ont énormément envie de lire.
Mais très envie. Oui.
Voilà, mais ça ne résout pas vraiment le problème à l'échelle des citoyens lambda. Et donc, c'est pour cela qu'il faut imaginer d'autres démarches.
Mais alors, la solution, c'est quoi justement ? Est-ce que c'est la cession de droits ? Est-ce que c'est des coéditions ? Est-ce que c'est le numérique ? Parce que là, il y a un sujet et la volonté d'ailleurs de créer dans ces états généraux un réseau numérique des acteurs du livre en français. Et ils plaident aussi, enfin, dans les résolutions et les préconisations qui sont faites, la création d'aides à la numérisation des fonds existants, mais aussi une aide à l'édition numérique, car trop souvent, les aides vont à l'édition papier et pas à l'édition numérique. Vous en pensez quoi, Michel Choyeri ?
Moi, personnellement, je reste sur le papier. Et je pense qu'il faut plus favoriser la coédition, qui est un moyen très facile à faire. Parce que, d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle l'Alliance des éditeurs indépendants qui travaille beaucoup là-dessus. On travaille avec eux énormément. Et je pense que c'est le meilleur moyen, parce que d'un côté, vous mettez en valeur un éditeur local. Si Gallimard édite avec un éditeur au Mali, ben, il va aider à relever le niveau de cet éditeur-là qui va se faire un nom, qui va pouvoir aussi produire ses propres livres en utilisant...
Donc, il y a mais il n'y en a pas plus... beaucoup quand même de coédition pour l'instant.
Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ça qu'il faut favoriser. S'il y a un budget à mettre, c'est plus sur, à mon avis, sur le papier et dans la coédition que sur la numérisation.
Simon Jocas.
Je vous dirais que c'est oui aux trois propositions.
Bah oui, mais vous voulez tout.
Oui, mais non, c'est pas qu'on veut tout. C'est que c'est plus complexe que simplement avoir une règle de base où on dit on va faire que du numérique ou que du papier ou que de la coédition. Je pense que, premièrement, dépendant du genre qu'on va lire, peut-être que le numérique va être plus approprié. Dépendant de l'âge de la personne qui lit, peut-être que le papier est plus approprié. Peut-être que dans certains cas, la situation financière de l'autre pays. Parce que là, il faut faire attention de ne pas tomber dans un portrait nord-sud. Ça peut être aussi nord-nord, sud-sud. Donc, dépendant des situations économiques, on peut peut-être aller vers une coédition ou une cession de droits. tout est possible. Ce qu'il faut avoir, c'est l'esprit ouvert pour dire qu'est-ce qui est le mieux pour toi dans ton pays.
Au Québec, les coéditions ou les cessions de droits sont plus faciles.
Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je serais tenté de croire que la coédition est plus rare au Québec. La cession de droits, nous cédons des droits, mais peu à des pays francophones. Si on le fait, ben on va le faire vers la France, la Belgique, la Suisse, à la limite. Mais on n'a pas encore bâti ce canal qui doit être bâti entre le Québec et les pays de l'Afrique où on pourrait effectivement faire de la coédition. Moi, je suis le premier à le proposer, à le croire. Et puis, comme disait Michel, on peut devenir aussi un point d'appui sur la professionnalisation de l'édition. Ça serait parfait, ça.
Alors, dans l'histoire de la circulation du livre, l'année 2020 a été celle d'une belle histoire avec le livre de Djaïli Amadou Amal. Son roman Les Impatientes, qui parle de polygamie et du sort des femmes, a été édité dans un premier temps au Cameroun, aux éditions Proximité. Il a été repéré, notamment avec le prix Orange. Donc, édition en France chez Emmanuel Collat. Le roman décroche le Goncourt des lycéens. Résultat, 300 000 exemplaires vendus, une dizaine de traductions et un cas d'école.
Je vais dire que c'est une aventure fabuleuse. Ça a aussi été l'espoir pour tous les écrivains vivant en Afrique, travaillant à partir de l'Afrique, qu'on peut continuer à travailler chez nous, publier chez nous, éditer, imprimer nos livres, mais quand même être aussi reconnu à l'international. Et le Goncourt des lycéens a fait en sorte qu'en Afrique et au Cameroun, on découvre ce livre qui, aujourd'hui, dans sa première version camerounaise, est quand même inscrit au programme scolaire des classes de terminale au Cameroun.
Mais n'êtes-vous pas une exception? Encore?
Bon, il faut rester, continuer à rester humble quand même. Mais voilà, c'est quand même une histoire fabuleuse.
Ibrahima Aya, cette histoire vous encourage. C'est l'aventure d'un livre, selon vous. C'est le début d'un mouvement de fond, d'un intérêt aussi du Sud pour des littératures du Nord, avec une primo-édition en Afrique. C'est ça qui est important.
Oui, bon, enfin, moi-même, j'ai coédité ce livre avant qu'il ne soit primé par le prix Orange et donc avant qu'il ne soit primé par le Goncourt. Mais sous le titre « Mounial, les larmes de la patience », c'est bien ça le titre initial. Donc, oui, c'est une aventure extraordinaire, mais ça fait partie des coups d'éclat qui, de temps en temps, voilà, animent le monde francophone. Donc, pour revenir à la question précédente, en fait, ça ne change pas fondamentalement la question qui est de dire est-ce qu'on est en mesure de créer chez nous aussi des écosystèmes qui permettent de produire, de diffuser, de vendre des livres. C'est ça la question. Maintenant, bien sûr, la question de la coédition, de la cession de droits, ça fait partie de la circulation des livres. C'est tout à fait intéressant, c'est tout à fait un axe sur lequel il faut absolument travailler. Ça rejoint aussi une préoccupation que j'avais soulignée, à savoir que ça peut être, ça nous permet de sortir de ce cheminement esthétique qui fait du marché français le centre de la création. Donc, tout ça, ça fait partie des démarches sur lesquelles nous travaillons, parce que je pense...
Donc, il faut décentrer l'idée de la littérature, l'idée de l'œuvre et...
Oui, mais bien sûr, je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut encourager aussi les éditeurs français, par exemple, les éditeurs canadiens ou francophones des pays arabes, à s'intéresser aussi au public africain. Je disais tantôt, ce public... J'insiste là-dessus, c'est 2,5 milliards d'habitants dans quelques années. Et je pense que, voilà, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Et c'est de se dire, ben justement, la coédition, par exemple, peut aider à travailler sur ces publics-là.
Alors, le temps passe, on ne va pas résumer en 30 minutes le temps de cette émission, ces deux jours de rencontres et ces 50 propositions, mais rapide tour de table, s'il y a une proposition, vous voyez la question piège, s'il y a une proposition, une mesure à prendre, laquelle est-ce, Simon Jokas?
Je ne sais pas. J'avoue que j'étais un peu sceptique il y a 2 ans, quand tout ça est parti. Je sentais que c'était un gros paquebot qui avancerait nulle part. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, d'avoir brassé les idées, peu importe celle qui sera la seule et unique, toutes les idées, selon moi, sont bonnes. Et on s'est rencontrés et je pense qu'on démarre le voyage. On n'arrive pas à une destination. On est en route vers un grand changement et toutes les propositions, je pense, sont riches. Il faut les prendre une après l'autre, tranquillement.
50, il y en a. Ibrahima Aya.
Peut-être j'insisterai C'est par rapport à l'environnement qui est le mien, qui est un environnement multilingue, mais aussi un environnement africain, où une population extrêmement jeune. J'insisterai beaucoup sur l'école. Je pense qu'il faut réinvestir l'école, parce que c'est aussi ça, les lecteurs de demain. Ça veut dire que c'est aussi ça, peut-être, un énorme marché intéressant pour le livre en langue française. Et vu les défis auxquels nous faisons face au Mali, et ça ne concerne pas que les livres, hein, ça concerne l'éducation de façon générale, l'ouverture à l'autre, c'est aussi les choix de vie, le fait de construire sur une génération qui est extrêmement jeune. Je pense qu'il est tout ça mis ensemble, je pense qu'il est extrêmement important d'investir, de réinvestir, parce que je dis réinvestir l'école parce qu'en fait, je considère qu'il y a eu une dégradation. Et c'est vraiment l'école est en difficulté. Et même, c'est aussi le lieu privilégié pour cultiver et entretenir cet environnement multilingue qui fait que, voilà, on fait de cet environnement multilingue un espace de partage, un espace de communion, mais un espace aussi de création. Et donc, la question pour nous, c'est, voilà, par rapport à cet espace, qu'est-ce qu'il faut ? Plus de résilience ou plus de vulnérabilité ? Je pense que l'école, ça répond justement à la question de comment construire plus de résilience.
Michel Choyri, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, en tant que vice-président de l'Association des libraires francophones qui avait signé une charte et qui est mobilisée comme ça sur les 5 continents ?
Écoutez, en fait, nous, ça fait 20 ans qu'on va bientôt fêter les 22 ans de l'AILF en 2022. Et je pense que depuis ce temps-là, on a toujours eu des rencontres, comme disait Simon, des rencontres sur justement la circulation du livre. Et j'étais aussi sceptique que lui il y a 2 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, quelles que soient les idées, qu'il y ait de la concrétisation. Parce que ça fait vraiment 20 ans que je suis dans le domaine, en fait, dans l'AILF, et on ne fait que de la théorie et des constats. Et les constats sont les mêmes. Ils changent de temps en temps, mais c'est pratiquement tous les mêmes depuis 20 ans. Du coup, il est temps de concrétiser, d'arrêter de faire des réunions pour en parler, mais de faire quelque chose pour concrétiser tout ce qu'on est en train de dire et tous les constats qu'on puisse vraiment faire.
Même si on doit commencer par les petites idées. Mais à des niveaux nationaux qui s'additionneraient?
Oui, à des niveaux nationaux, sensibilisés déjà à travers le sommet de la francophonie, les ministres francophones, les ministres qui sont là, qui font peut-être de la politique, mais qui sont là aussi pour favoriser la langue française. Donc favoriser ces ministres à enlever les taxes sur les livres qui se dirigent vers l'Afrique. Quand vous dites que le livre augmente, ben, ils payent des taxes. Comment ça se fait qu'au Liban, on a réussi à éviter de payer les taxes ? En Afrique, ils ont signé des conventions qui, normalement, ils ne doivent pas payer de taxes et ils payent quand même les taxes sur les livres. Donc ça augmente encore plus le prix du livre qui est déjà inaccessible. Donc il y a tout ça encore à faire au niveau de la sensibilisation, au niveau de la politique, et de concrétiser, et de commencer par quelque chose, mais de concrétiser, de ne plus faire des réunions de dialogue.
Du concret donc, et j'espère qu'on se retrouvera peut-être avant 30 ans. Enfin, pour ma part. Merci à vous trois, Michel Choyri, Simon Djokas, Ibrahima Aya. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Institut français où tous les débats et toutes les tables rondes sont retransmises. De vive voix, Pascal Paradou, assisté de Cécile Lavolo, réalisation Guillaume Ploquin. Bonne fin de semaine. Lundi prochain, De vive voix est toujours en goguette, mais à Limoges cette fois, où vous découvrirez notamment le nom du lauréat ou de la lauréate du prix théâtre. À bientôt.